RCF donne la parole aux associations locales et aux ONG. Et c'est dans Solidaide.
Bonjour et bienvenue dans ce Solidaide. Nous recevons aujourd'hui Delal Baloul. Elle représente le RWLP, c'est-à-dire le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et elle est accompagnée de Laura, qui est actuellement sous le régime du CPS et qui nous parlera justement de son statut, de son expérience par rapport au statut de cohabitant, puisque il s'agit effectivement du cheval de bataille de RWLP pour le moment, hein, c'est faire tomber ce statut de cohabitant. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors peut-être que on va peut-être un peu commencer par le début. Qu'est-ce que le RWLP, donc le réseau de wallon de lutte contre la pauvreté?
Donc le réseau wallon de lutte contre la pauvreté est une association qui rassemble donc diverses associations. Donc c'est un assemblage de différentes associations qui a pour but en fait de lutter contre la pauvreté de manière structurelle. Voilà, donc en gros, c'est la finalité du réseau.
Alors, ce statut hein, de cohabitants légaux, on va en parler hein, tout au long de cette émission. C'est quoi tout d'abord la mission que s'est donnée par rapport à ce statut que s'est donné le réseau?
Donc voilà, en fait, le statut de cohabitant, donc en fait, déjà dire en quelques mots ce que c'est. Donc en fait, le statut de cohabitant s'applique pour différentes allocations sociales. Donc elle existe pour les allocations de chômage, pour les allocations de mutuelles, pour les allocations pour personnes handicapées. Donc en fait, ce statut, en fait, concrètement, c'est une diminution du revenu que la personne perçoit. Donc, la mission que s'est donnée le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, c'est de demander la suppression de ce statut cohabitant parce que c'est un statut qui est en fait très appauvrissant et injuste. Et donc, on est en campagne donc contre ce statut cohabitant afin que chaque personne puisse avoir des droits qui sont individualisés et peu importe la situation dans laquelle elle se trouve, qu'elle habite seule ou qu'elle habite en colocation ou qu'elle habite en ménage ou en famille.
Mmh. Oui, c'est ça. En fait, les allocations sont un droit personnel. Il n'y a pas de raison qu'il soit diminué parce que on cumule un loyer ou quelque chose comme ça. En fait, hein. C'est un peu ça l'idée.
Hein. Oui, c'est vraiment ça l'idée, c'est de dire bah, que c'est une personne en droit. Et que voilà, ce sont des allocations, voilà, le taux le montant du taux cohabitant est vraiment très bas, très très bas, et voilà, c'est inacceptable que les personnes, soient dans avec un si bas revenu, et ça ne se justifie pas, en fait, Et donc, en fait, le réseau wallon donc est entré en campagne contre le statut cohabitant et la particularité du réseau aussi c'est de travailler donc avec les personnes qui sont concernées par ce statut de cohabitant qui sont concernées de manière générale par la pauvreté et qui elles-mêmes expliquent en quoi c'est difficile pour elles, en quoi ça rend plus compliqué la vie avec un tel statut.
Donc c'est ça en fait, vous allez chercher, enfin je vais dire les acteurs sur le terrain, vous allez chercher les personnes justement qui sont concernées par ces inconvénients pour appuyer la démarche et pour leur donner la parole aussi.
Exactement, donc c'est vraiment partir de leur vécu, de leur expérience et voilà partir du concret et du réel et en quoi c'est problématique pour elle ce statut. Et donc en fait je disais que le statut cohabitant donc existe dans plusieurs allocations sociales. Le statut cohabitant a été mis en place dans les années 70 au niveau du CPAS et dans les années 80 au niveau du chômage. C'est un statut qui est très compliqué au niveau de sa mise en place et au niveau de sa compréhension. Donc, elle est très compliquée Déjà pour les travailleurs, mais aussi pour les gens, en fait, pour les personnes qui le vivent, c'est vraiment très compliqué à comprendre. Et en fait, donc, chaque régime a sa manière d'appliquer le statut de cohabitant. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. En tout cas, nous, aujourd'hui, on est là pour parler du statut cohabitant et du CPAS, qui a aussi sa propre manière, donc, d'appliquer le statut de cohabitant. Et donc, en fait, au niveau du CPS, donc quand on est au CPS, c'est qu'on remplit toute une série de conditions. Et une des conditions, c'est qu'on est privé de ressources, en fait. Donc, on est rejeté donc du système de sécurité sociale. Et en fait, donc le CPS octroie trois taux différents. Donc, il existe le premier taux, c'est le taux chef de ménage. Donc, en fait, je vais vous donner les montants exacts qui ont été indexés au 1er janvier ici. Au 1er janvier, donc le taux chef de famille, il est de 1449,15 € exactement. Et donc en fait, ce taux, c'est pour un parent qui a un ou plusieurs enfants mineurs à charge. Il y a comme second statut le statut isolé qui est de 1072,30 €. Et donc ça, c'est pour une personne qui vit seule. Ensuite, le troisième statut, qui est le fameux statut cohabitant. Donc là, la personne peut recevoir maximum 714,86 € par mois. Donc maximum. Et donc, en fait, le CPS va devoir vérifier de manière concrète, en fait, dans quelle catégorie se trouve la personne, en fait. Via une enquête sociale. C'est une assistante sociale qui va être chargée, donc, de faire ce travail. Donc, comment? C'est en vérifiant, toute une série de documents, en allant en visite au domicile de la personne pour vérifier, comment vit la personne, au niveau de la composition de ménage, voilà. Il va avoir toute une série de vérifications. Et pour, déterminer si la personne a le statut de cohabitant ou pas, il y a deux conditions, en fait, au niveau du CPAS. Hein. Mm-hmm. C'est encore différent dans les autres matières, mais là, au niveau du CPAS... Mm-hmm.
Mais aujourd'hui, on parle vraiment du CPAS. Hein.
Voilà. Oui. Donc, pour le CPAS, il y a deux conditions. La première condition, c'est que le CPAS doit vérifier que vous vivez sous le même toit que d'autres personnes. Mm-hmm. Et la deuxième condition, qui est plus compliquée et sujette à interprétation, c'est que avec ces personnes, vous devez régler en commun les questions ménagères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, que vous faites les courses ensemble, que vous payez, vous partagez les factures d'électricité, de gaz et de loyer. Et donc, on va le voir, mais à travers aussi le témoignage de Laura, en quoi cette condition est sujet à interprétation et en quoi d'un CPAS à un autre, on va vous octroyer un statut cohabitant ou isolé.
Je propose qu'on marque une petite pause musicale et puis après justement on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler aussi avec Laura de son vécu à elle, comment elle perçoit, vit les choses, plus ou moins bien forcément. Et on se retrouve dans quelques minutes. Voici Noé Préchauffe avec un titre qui s'appelle « Je te parle encore ».
Je te parle encore dans la langue des rêves du bateau qui viendra mais qui ne viendra pas. Et que j'attends quand même parce que c'est ma mission, parce que c'est mon fardeau de défier l'horizon. Comme le long de l'eau lorsque nous avions l'âge de pédaler à fond pour tout devenir. Puisque nous avions l'âge de tout devenir, les poches décousues, les pieds nus. Je te parle encore, la bouche bien fermée, quelque chose s'est passé, il faut que je te raconte. Nous étions là et puis nous n'y étions plus, ça s'est passé comme ça, il faut que je te raconte. Bien avant le déluge, avant que l'accident ne vienne couper court au paradis sur terre. Nous allions sans savoir le pourquoi du comment, les idées dans le vent de rivière en rivière. Je te parle encore sur d'autres rivages, sur d'autres visages, dans d'autres ports, sous d'autres robes à fleurs jaunes, sur d'autres bords, dans d'autres flores, vers d'autres faunes. Capitaine, avez-vous vu? L'avez-vous vu passer? Je sais qu'elle passe encore, je sais qu'elle est passée, capitaine. Répondez. Thank you. parle encore de ceux qui ne sont plus là, de ceux que j'ai quittés, de celles qui m'ont quitté. Parce que trop de dégâts ou parce que pas assez, que le temps passait sans que rien ne dépasse. Non, pas de nouvelles, reçu aucun message, rien envoyé, je sais ni lever mon verre. Avec les anciens n'ont aucune nouvelle, du petit nerveux et du grand aux longs cheveux. Je te parle encore assis sur les chiottes, parce que c'est toujours là que je cause le mieux. Parce que pour tout te dire, y a plus que là que je cause, à l'abri des soupirs et des nouvelles moroses. Je te parle encore parce que j'ai peur le jour, parce que j'ai peur la nuit, parce qu'on m'a suivi. Et qu'on me suit encore, qu'on m'a cassé la gueule, parce que mes yeux derrière, parce que mes yeux devant ne me suffisent plus pour tracer ma route. Je te parle encore sur d'autres rivages, sur d'autres visages, dans d'autres ports, sous d'autres robes à fleurs jaunes, sur d'autres bords, dans d'autres flores, vers d'autres faunes. Capitaine, avez-vous vu? L'avez-vous vu passer? Je sais qu'elle passe encore, je sais qu'elle est passée, capitaine. Répondez. Dans la langue des rêves du bateau qui viendra mais qui ne viendra pas.
De retour dans ce Solidaid avec le RWLP, le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Nous sommes toujours en compagnie de Delal et puis de Laura, hein, Laura qui va venir un petit peu nous parler de son parcours et puis son expérience avec ce fameux statut de cohabitant. Aujourd'hui, on parle évidemment de ce statut par rapport à la situation au CPAS. Hein. Alors, bonjour Laura.
Bonjour.
Alors, quelle est un petit peu votre histoire en quelques mots?
Ok. Donc, ça fait quelques années que je suis en contact avec le CPAS. C'est un système qui me permet de développer mon activité d'indépendante tout en ayant en même temps un revenu et me sentir sécurisée. Donc, initialement, j'ai beaucoup de gratitude pour cette possibilité. Le problème, ça a été qu'il y a un peu plus d'un an et demi, quand j'ai voulu déménager et changer de CPAS, l'enquête sociale qui était censée vérifier que j'aurais dû toucher un revenu d'indépendant n'a pas été faite. J'ai touché le revenu de cohabitation pendant plusieurs mois. Ça a été très difficile, financièrement parlant, de pouvoir gérer mes budgets. Et j'ai dû en même temps porter ça au tribunal pour avoir gain de cause. Ça a été une expérience qui était difficile, fatigante, et que je pense tout le monde n'aurait pas eu l'espace et le soutien pour pouvoir la mener à terme. Voilà.
Mmh. Donc, vous disiez, l'enquête qui doit normalement avoir lieu n'a pas eu lieu, tout simplement.
Mmh. Oui, il y avait, c'est la période Covid, ce qui du coup peut être compréhensible, mais je considère que l'entretien aurait pu être fait ne fût-ce que par mail et téléphone via photo. Mais malgré mon message qui expliquait la situation de manière très concrète et détaillée, ça n'a jamais été pris en compte. Ils n'ont pas voulu revoir mon dossier à l'intérieur de leur organisme. Et j'ai été obligée de faire les démarches judiciaires pour pouvoir y arriver.
Mmh.
Peut-être pour apporter une précision donc sur l'histoire de Laura. Donc en fait, Laura est en colocation, en fait, donc un bail de colocation, et donc en fait, elle partage donc son logement avec plusieurs personnes. Sauf que ces personnes, en fait, donc elle vit sous le même toit que ces personnes, mais elle ne partage pas en fait les questions ménagères avec ces personnes.
Oui, c'est donc, ça. Donc ces questions dont on parlait juste avant la pause musicale, hein, donc c'est le fait de partager les factures, de faire partie éventuellement du même ménage.
C'est ça. Donc du coup, en fait, le CPS donc n'a pas fait l'enquête sociale et s'est dit que dans la composition de ménage, ils étaient plusieurs. Donc, ils lui ont octroyé le statut de cohabitant, alors qu'en réalité, elle était isolée dans sa situation. et que finalement, elle a demandé au CPS de revoir le taux isolé, mais ça n'a pas été entendu parce que c'était vraiment sujet à interprétation d'un CPS à un autre et parfois même d'une assistante sociale à un autre. On octroie parfois un statut cohabitant, parfois un statut isolé parce que c'est un statut qui est complexe. Et donc là, elle a dû faire toutes les démarches en fait au niveau du tribunal du travail qui prennent. C'est une démarche qui a pris 6 mois, c'est ça. 6 mois de devoir se défendre, d'apporter la preuve qu'elle ne partageait pas les questions ménagères, donc qu'elle avait ses propres courses à elle. Donc ça va très loin pour prouver des détails, pour finalement avoir un revenu qui est quand même minimum. Et finalement, elle a eu gain de cause face au CPS, mais on pense à toutes les personnes qui n'ont pas cette capacité, cette aptitude à pouvoir aller au tribunal pour se défendre. Ça complexifie le travail des assistantes sociales, ça complexifie aussi la vie des gens en fait.
Est-ce que on a l'impression qu'il y a justement par rapport à ces notions de statut chef de famille isolé cohabitant, qu'il y a une espèce de flou artistique autour de ça?
Voilà, en tout cas au niveau du statut de cohabitant au CPS, quand il y a une situation de colocation et qu'on n'est pas vraiment dans un ménage, un ménage de fait, on va dire, c'est vrai que là c'est assez flou quoi. Est-ce qu'on partage des questions ménagères en commun? En fait, c'est ça la question quoi. Est-ce que un CPS va considérer que si on a une cuisine en commun, on fait la cuisine ensemble? Ça va vraiment dans le détail et dans la vie privée aussi des personnes. Et ça, Laura, peut-être tu peux l'expliquer, mais toi, ton souhait de vivre en colocation, c'était aussi pas vraiment par choix, mais par... je pense que c'est intéressant.
Par nécessité.
Oui, initialement, c'était en effet parce que j'avais juste pas assez de revenus que pour prendre quelque chose juste pour moi. Même avec le revenu d'isolé, c'est pas suffisant. Si ça avait été purement de mon choix, j'aurais préféré d'abord trouver les personnes avec lesquelles j'allais habiter et puis peut-être par la suite faire une colocation avec elles. Là, c'était vraiment pour de la survie et pour pouvoir avoir un lieu agréable de vie tout en ayant ce lieu dans mes moyens en même temps.
Quels sont les inconvénients de devoir être en colocation ou en cohabitation?
Mais disons que je pense pas qu'il y ait automatiquement d'avantages ou de désavantages, que ça va fort dépendre de la colocation. La seule chose qui m'a dérangée dans ce qui s'est passé avec le CPS et le tribunal, c'est que un des arguments qui a été porté contre moi, c'était que je retirais un avantage financier du fait de vivre en colocation. Mais c'est une évidence, et c'est parce que je tirais un avantage financier de la colocation que je me suis dirigée vers la colocation, sinon j'aurais pas pu louer.
Oui, ce qui est logique. Et en fait, finalement, le fait d'avoir ce statut de cohabitant, c'est pas un avantage financier, c'est l'inverse, exactement l'inverse qui se passe.
Oui, tout à fait. On punit un peu les personnes d'un choix qui répond aussi à une crise de logement aussi. Les modes d'habitation en colocation se font de plus en plus. Et donc, ce statut de cohabitant empêche de ces formes de colocation. Et appauvrit vraiment les personnes, alors que ce serait vraiment une solution concrète au niveau de la crise du logement, par exemple.
Oui, c'est ça. Et puis, effectivement, c'est normal, finalement, de vouloir... quelque part réduire le coût d'un loyer qui sont de toute façon de plus en plus élevés.
Et alors ce qui est tout à fait juste aussi, c'est que quand il y a deux personnes qui travaillent et qui décident d'être en colocation, elles ont leur salaire de manière complète. Mais alors là, quand on décide d'être dans un mode de vie de colocation, on réduit de moitié et donc c'est pas juste, évidemment.
Et puis on se rend compte que le gros problème, c'est que le travail d'enquête n'a pas été fait à la base.
Oui. Et ça, c'est vrai que c'est encore quelque chose de spécifique qui a été le cas pendant le Covid, c'est qu'il y a eu énormément de travail en distance.
Oui.
Pas de rencontre avec le travailleur social qui peut attester et via une visite à domicile de la réalité des faits. Donc là, on s'est contenté de regarder des des compositions de ménage, un bail où on a vu qu'il y avait plusieurs personnes qui signaient ce bail-là. Et donc ça peut être attiré aussi le danger, mais ça c'est un autre thème sur la digitalisation et la distanciation dans le travail social aussi. Voilà, donc c'est vrai que si on supprimait en tout cas ce statut cohabitant, ce serait beaucoup plus simple pour les travailleurs sociaux de faire ce travail et d'octroyer le taux correct à la personne et d'éviter tous les tracas qu'elle aura eu pendant plusieurs mois où vous êtes privé vraiment d'une grosse partie de vos revenus et où ça peut être extrêmement appauvrissant, mais ça peut avoir aussi des conséquences, des grosses conséquences, quoi.
Oui, puis c'est injuste parce qu'en fait, c'est vraiment, si je comprends bien, Laura, on t'a mis dans une case ou dans une situation qui n'était pas du tout la tienne, en fait.
Mm-hmm. C'est ça, oui.
Mm-hmm. On va encore marquer une petite pause musicale et puis après on continuera encore un peu à parler de ce statut et puis pourquoi est-ce qu'il faut lutter contre et quelles sont les actions qui ont déjà été menées, mises en place et surtout les petites victoires qu'on a pu déjà obtenir par rapport à cette question. On continue avec une femme, elle est québécoise, elle s'appelle Salomé Leclerc, voici Partir Ensemble. Nous sommes toujours dans Solidaide avec le RWLP, réseau wallon de lutte contre la pauvreté, qui mène une action contre le statut de cohabitant. Alors, Quelles sont un peu les actions qui ont été menées et surtout, hein, surtout les petites victoires qui ont déjà été gagnées par rapport à cette lutte?
Donc au niveau des actions, c'est de pouvoir déjà entendre toute une série de personnes en quoi elles sont victimes de ce statut de cohabitant. Ça a été le thème principal aussi du 17 octobre 2021. Donc voilà cette lutte contre le statut de cohabitant, et on va continuer à aller interpeller les pouvoirs publics, les politiques pour leur montrer en quoi c'est important et urgent de le supprimer. Au niveau déjà des petites victoires et qui pour nous au réseau wallon sont déjà des reconnaissances que le statut de cohabitant pose problème. C'est par exemple au moment du Covid, on a décidé, donc le gouvernement a décidé d'octroyer le chômage temporaire Covid en immunisant donc du statut de cohabitant. Donc chaque personne recevait le chômage temporaire. Mmh. Il n'existait pas de statut de cohabitant. Donc si vous étiez en couple, une femme, un homme, et tous les deux vous tombiez au chômage temporaire, on vous coupait pas en deux votre chômage temporaire. Donc déjà ça c'est pour nous une reconnaissance qu'il pose problème ce statut. Lors des inondations aussi, donc voilà, le premier réflexe qui a été suite aux inondations, c'était la solidarité. Donc qu'est-ce qui empêche la solidarité en partie? Encore une fois, c'est pour ça qu'on le dénonce, c'est le statut de cohabitant, parce qu'en fait, si vous accueillez quelqu'un chez vous et que vous avez une allocation sociale, eh ben vous pouvez voir votre revenu diminuer, donc ça n'incite pas à la solidarité. Mmh. Donc là, il avait été décidé que les personnes qui accueillaient une personne sinistrée étaient immunisées par rapport à son statut et ne retombaient pas au statut de cohabitant. Donc là, encore une fois, c'est une preuve que pour la solidarité, pour répondre à des besoins qui étaient vraiment urgents, c'était essentiel de le supprimer. Et il y a aussi une petite victoire au niveau des allocations pour personnes handicapées. Donc là, c'est un petit peu technique, et l'allocation pour personnes handicapées se compose de deux allocations, une allocation de remplacement et une allocation d'intégration. Et donc l'allocation d'intégration, qui est la deuxième partie de cette allocation pour personnes handicapées, a été totalement immunisée du statut de cohabitant et donc elle n'existe plus, quoi. Mais il reste encore du travail à faire au niveau de l'allocation pour personnes handicapées, parce que l'ARR, donc l'allocation de remplacement, qui est la plus grosse partie, elle n'est pas immunisée du statut de cohabitant, quoi.
Mmh. En tout cas, un tout grand merci, hein, d'avoir répondu à ces questions. Et puis, on continue à suivre vos actions de près et on se reverra très bientôt.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Merci.
Merci.